Vous écoutez
RMC.
Géraldine Nobori, il fait froid sur RMC. Enfin, sur RMC et ailleurs.
Pas partout. Hein.
Il fait même un peu plus chaud sur RMC, si j'ose dire.
Sur le plateau, ça va, mais dehors, effectivement, ça caille. Des gelées quasi généralisées ce matin. Cet après-midi, pas plus de 0 degré à Bourges, 1 degré à Lyon, 4 à Paris, Lille. Il fera 11 à Bordeaux, 14 à Marseille, 16 pour Nice et Ajaccio, avec pas mal de brouillard hein, ce matin, parfois givrant. Globalement, le soleil va s'imposer, mais avec par endroits des grisailles qui resteront tenaces vers la Gironde, également entre le nord du Val de nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Val de Saône.
8h sur RMC, un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et Quentin Vinet est avec nous pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Saint-Tropez rend hommage à Brigitte Bardot ce matin, là où l'actrice est décédée à 91 ans dans sa madrague, dans sa ville, qu'elle avait rendue célèbre dans le monde entier. RMC est sur place. Attention sur la route. À partir de ce matin, les très grands excès de vitesse deviennent des délits. On verra ce que ça change. Et le Maroc, le foot. Le Maroc sous pression aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations pour décrocher une place en huitième de finale.
La ville de Saint-Tropez rend hommage à Brigitte Bardot.
Oui, son ambassadrice la plus éclatante. Voilà ce qu'écrit la ville où l'icône avait acheté sa villa dans les années 50, où elle s'est éteinte hier à l'âge de 91 ans. Amélie Courtet, vous êtes d'ailleurs en direct de Saint-Tropez ce matin pour RMC, envoyé spécial. Ville que Brigitte Bardot a fait connaître donc dans le monde entier.
Oui, plus de 60 ans qu'elle vivait ici dans sa célèbre résidence, la Madrigue, en bord de mer. C'est dans cette même villa qu'elle est décédée hier, à l'âge de 91 ans, dans les bras de son mari Bernard Dormal. À quelques mètres de là, les fans de Brigitte Bardot se sont succédés jusque tard dans la nuit. Bougies, fleurs, peluches et des mots, bébé, on ne t'oubliera pas. Émotion jusque dans le centre de Saint-Tropez, où son décès est sur toutes les lèvres ce matin. Fred, par exemple, journal local dans les mains, avec en une un portrait de l'actrice jeune, salue une icône.
La femme avec un F majuscule, c'est vraiment grâce à elle qu'il y a eu toute cette libération. La femme n'était plus considérée comme un simple objet, c'est devenu un être humain à part entière. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle s'est quand même battue bec et ongle, c'est le cas de le dire, pour la cause animale. C'est une grande dame qui s'en va. Comme quand vous avez des gens comme Belmondo qui partent, Brigitte Bardot, pour moi, c'est sur la même ligne.
Cette ville n'aurait pas le même prestige sans elle, reconnaît un autre habitant. Ici, on cite ses films et Dieu créa la femme. On fredonne le refrain de sa chanson Harley Davidson. Une cérémonie hommage devrait être organisée dans les prochains jours à Saint-Tropez. La date n'a pour le moment pas été communiquée.
Amélie Courtet en direct de Saint-Tropez pour RMC. Brigitte Bardot s'y était installée en tant qu'actrice à Saint-Tropez. Avant d'arrêter le cinéma et de faire de la cause animale son combat au point de créer sa fondation que chacun connaît, ce qui lui vaut d'ailleurs l'hommage écouté de Jacques-Charles Fonbonne, c'est le président de la SPA.
Je dirais que c'est plus qu'une icône de la protection animale. C'est quelqu'un qui a fait germer dans l'esprit de tout le monde le fait que la condition animale était quelque chose d'important. C'était quelque chose de complètement nouveau et quelque chose auquel l'ensemble de la population n'accordait aucun intérêt. Elle a été à l'origine de la protection animale moderne et surtout un éclairage unique et irremplaçable de cette cause vis-à-vis de la population.
Alors parmi tous les hommages dont on parle depuis tôt ce matin sur RMC, sachez que toute une partie de la classe politique à gauche notamment reste silencieuse. Des élus LFI rappellent les condamnations judiciaires de Brigitte Bardot, sa proximité avec les Le Pen. Romain Cluzel du service politique à RMC, l'actrice avait une relation contrastée avec les présidents avant de soutenir l'extrême droite.
C'est en chemise-pantalon que Brigitte Bardot franchit pour la première fois le perron de l'Élysée en 1967. Une entorse au protocole de l'époque. À son arrivée, le président de Gaulle s'exclame « Chic, un militaire ». Quelques années plus tard, t-shirt Giscard à la barre sur le dos, bébé soutient activement VGE et la protection des animaux est déjà au cœur de ses revendications. Elle le convainc de mettre fin à l'importation des fourrures de phoque. Suivent plusieurs déceptions pour l'ancienne actrice. Aucun chef de l'État n'est à la hauteur sur la condition animale selon elle. Surtout Brigitte Bardot ne cache pas son amitié pour la famille Le Pen, notamment Marine, qu'elle qualifie de Jeanne d'Arc du 21e siècle. En 2022, elle soutient Éric Zemmour, puis Nicolas Dupont-Aignan. Après avoir tenu des propos ouvertement islamophobes, Brigitte Bardot est condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale.
C'est intéressant aussi hein, ce rapport de Brigitte Bardot à la politique, aux politiques, sa façon d'interpeller les différents présidents de la cinquième. On en parlera tiens avec Jack Lang qui sera en ligne avec nous à 8h30 tout à l'heure. On sera aussi avec Christophe Carrière, grand reporter au service culture à Paris Match, l'histoire L'histoire d'amour entre Paris Match et Brigitte Bardot, on va en parler. Elle était encore à la une le 24 décembre dernier, à la une de Paris Match. Elle le sera cette semaine, à n'en point douter. On en parle et vous nous dites votre souvenir de Brigitte Bardot ce matin au 32-16. Il est 8h05 et le gouvernement hausse le ton sur les grands excès de vitesse.
Oui, à partir de ce matin, les excès supérieurs à 50 km/h deviennent des délits. Ils étaient passibles jusque-là de contraventions. Délits, ça change que désormais, si vous roulez à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, eh bien vous encourez une peine de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Marion Degas, vous avez pu échanger pour RMC avec le père d'une victime d'accident de la route. Il mise sur ce nouveau décret pour responsabiliser davantage les automobilistes.
Stéphane Dolo a perdu son fils dans un accident de la route il y a 3 ans, percuté à très vive allure par un chauffard.
Le monsieur en question n'était pas à 110 km/h, mais à 177.
Soit 67 km/h au-dessus de la limite autorisée sur cette route départementale du Lot. L'automobiliste est un père de famille de 39 ans. Il conduisait un SUV.
C'est monsieur tout le monde avec un véhicule un peu costaud. Avec un gros véhicule comme ça, très lourd, c'est un boulet de canon. Et la preuve en est, la voiture de mon fils a été traînée sur 70 mètres.
Mais au procès, le conducteur qui en plus utilisait son téléphone au volant nie les faits.
Moi, j'ai pas entendu un quelconque regret. Les magistrats lui ont dit, mais on a la preuve, vous avez roulé à 177 km/h. Au moins. Et la seule chose que j'ai entendue de sa part, c'est si vous le dites.
Ce message de fermeté était donc plus qu'attendu.
J'adhère complètement à ce genre de loi parce que ce genre de comportement est vraiment à bannir. Ça n'a plus rien à faire sur nos routes.
L'an dernier, 63 000 excès de vitesse de plus de 50 km/h ont été relevés par la sécurité routière. C'est 69% de plus en 8 ans.
Il faut encore gratter les pare-brises ce matin dans de nombreuses régions avec les températures négatives qui perdurent la nuit, nous dit Météo France. Raison pour laquelle d'ailleurs le plan grand froid a fini par être activé en Ile-de-France. Ça veut dire plus de maraudes, plus d'hébergements d'urgence. Ce plan a été réclamé depuis des jours par la ville de Paris, alertant sur la situation dramatique des personnes sans abri. Marius Roland s'est rendu d'ailleurs pour RMC dans un lieu d'accueil du 13e arrondissement de Paris.
Maxime est sans domicile fixe depuis plus de 10 ans. Il a trouvé refuge ici. Passé tout un hiver glacial dans la rue, il sait ce que ça fait.
Ça peut provoquer de l'eczéma, des douleurs osseuses aussi. Et beaucoup de fatigue aussi, physique, mentale, etc.
Et quand ça devient urgent de se réchauffer, c'est loin d'être facile. Ellie vient seulement d'obtenir un lit hier.
Tu essayes de gratter une place dans les bâtiments ou dans la gare, mais bon, au bout d'un moment, les gares, ça ferme. Les accueils de jour, heureusement qu'ils sont ouverts pendant les périodes de fêtes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont fermées.
Chaque jour, les dégâts du froid sur ces hommes et ces femmes, Mustapha les constate. Il est agent d'accueil ici depuis 17 ans.
Ils sont encore plus pauvres quand ils sont dans le froid. Les hivers sont de plus en plus rudes. Il faut dire qu'ils arrivent un peu fatigués par la rue, dans un état catastrophique, usés, ils ont froid, ils ont faim. Ils perdent toute notion du temps, ils sont complètement perdus.
Selon les dernières données de la mairie de Paris, plus de 3500 personnes étaient sans solution d'hébergement dans la capitale, un chiffre en hausse depuis 2021.
On reparle ce matin du combat contre le trafic de drogue à Marseille. Combat que mène, vous le savez, depuis des années, Amine Kessassi. Un de ses frères a été assassiné en novembre et un premier l'avait été il y a 5 ans sur fond de trafic de drogue. Il y a 5 ans, point de départ d'ailleurs de son combat contre ce trafic. Célestin Bougère pour RMC. Amine Kessassi lui rend hommage dans un long message qu'il publie sur ses réseaux sociaux.
Oui, je t'ai pleuré, je te pleure encore. Les mots d'Amine Kessassi pour son frère Brahim, le 28 décembre 2020. Son corps est retrouvé, criblé de balles et carbonisé dans un véhicule près de Marseille. Le procès des assassins présumés de Brahim Kessassi doit se tenir à partir du 19 octobre prochain. 5 ans après ce drame, Amine Kessassi est devenu l'une des voix les plus importantes de la lutte contre le narcotrafic. Je ne me suis pas construit comme un jeune découvrant la vie, mais comme un combattant pour la paix, clame-t-il dans ce message. Un combat qu'il porte toujours avec force, malgré le deuxième drame qui a touché sa famille, l'assassinat d'un autre de ses frères, Mehdi, le 13 novembre dernier. C'est avec une pensée pour lui qu'il ponctue son message. Brahim, Mehdi est près de toi, veillez l'un sur l'autre.
Emmanuel Macron annonce ce matin une réunion début janvier à Paris des alliés de l'Ukraine. Dans la foulée d'un échange Trump-Poutine, ça c'était hier soir, et d'une rencontre Trump-Zelensky, ça c'était cette nuit, le président américain Donald Trump pense qu'un accord de paix pour l'Ukraine est tout proche. Il se dit d'ailleurs prêt à aller parler devant le Parlement ukrainien. Donald Trump qui va recevoir aujourd'hui aux États-Unis l'Israélien Benjamin Netanyahou. Il sera question de la trêve à Gaza alors que la deuxième phase du plan américain semble là-bas dans l'impasse.
Il est 8h10 sur RMC et le Maroc qui a la pression à sa Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, que vous suivez sur RMC, vous le savez. savez, radio officielle. Hier, l'Algérie a rejoint l'Égypte et le Nigeria en huitième de finale. Et aujourd'hui, c'est donc le Maroc, avec le retour d'Achraf Hakimi, qui va tenter de se qualifier face à la Zambie, le match à 20h. Un retour qui tombe très très bien, Nicolas Pelletier, puisque les Marocains sont très critiqués depuis leur match nul de vendredi contre le Mali.
Oui, et après les sifflets reçus vendredi soir à Rabat, le sélectionneur marocain Walid Regragui sonne la mobilisation générale.
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses. J'aurais dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment.
Une sélection en plein doute qui pourra compter sur le retour d'Achraf Hakimi. Toujours très calme, le capitaine des Lions de l'Atlas hausse le ton contre ceux qui osent critiquer la sélection marocaine.
Je sais que les supporters ne sont pas contents pour qu'on joue à la maison. C'est pas normal que tous ici, on voulait jouer avec les supporters. De temps en temps, on dit que les critiques, on s'en fout des critiques, mais c'est pas vrai. On écoute et ça fait mal aussi.
Pour Walid Regragui, la participation de son taulier Hakimi tombe à point nommé.
Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf. On a fait deux matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur. Achraf, aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal.
Pour retrouver une union sacrée autour de la sélection nationale, Hakimi et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur face à la Zambie ce soir.
Et ce match du Maroc, ce sera à 20h ce soir sur RMC.
Merci beaucoup Quentin Vinet, en ville à Cannes, en direct sur RMC. Évidemment, 8h11, c'est l'heure de parler d'énergie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Alors Manu, le chiffre, c'est l'anti-Père Noël. Il rentre de vacances. Bonjour Manu, ça va?
Tu veux des taxes? J'ai ce qu'il faut.
Eh, ça marcherait. Hein. Sur Netflix, moi je clique. Toutes les factures de gaz et d'électricité vont augmenter au 1er janvier.
Oui, alors...
Merci pour Manu. Alors, c'est cool de revenir de vacances.
Ah, puis alors là, personne ne va y couper. Ça va être quasi automatique. Il faut savoir que ça n'est pas à cause de l'augmentation du prix ou du gaz, hein, vont devenir plus chers, que nos factures vont augmenter. Non, c'est le fruit d'une politique publique contraignant les fournisseurs d'énergie à nous inciter à faire des économies. Ça vous paraît complexe ? C'est normal, c'est français. reprenons. Donc, depuis 2005, l'État impose aux vendeurs d'énergie, comme EDF, Engie ou Total Energy, d'aider les Français à consommer moins de gaz et d'électricité en isolant davantage, en changeant de chaudière en installant une pompe à chaleur, par exemple, la plupart du temps. Donc, ça revient à aider l'État à financer des dispositifs comme MaPrimeRénov', et au 1er janvier, eh bien, ces fournisseurs d'énergie vont devoir financer 27% d'économie d'énergie en plus que ce qu'elles finançaient auparavant via un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Or, les travaux sont de plus en plus coûteux et donc ces certificats d'économie d'énergie vont coûter de plus en plus cher à ces fournisseurs qui vont donc répercuter tout ça sur notre facture.
Et notre facture, c'est l'heure de l'addition, combien ça va nous coûter?
Alors, le problème, c'est que la façon dont les fournisseurs vont répercuter cette hausse des coûts sur notre facture est assez opaque. Hein. Il n'y a pas de ligne spécifique, il y a une vague ligne sur la fiscalité. UFC Que Choisir nous dit que la contribution annuelle moyenne des consommateurs à ces certificats d'économie d'énergie, c'est entre 124 et 244 euros. Et donc, au 1er janvier, ce sera sans doute 50 euros de plus sur l'année. Sachant que c'est 50 euros pour le gaz, 50 euros pour l'électricité.
Ah oui.
Donc si vous êtes à la fois client au gaz et à l'électricité, ça vous fera quand même 100 euros de plus sur l'année.
Alors attendez, tous les clients sont concernés
mais... Oui, absolument tous, quels que soient les fournisseurs d'énergie, quel que soit le type de contrat souscrit, y compris les contrats à prix fixe. Vous savez, puisque la partie fixe du contrat ne porte que sur le prix de la molécule de gaz, etc. Tout ce qui est fiscalité, par exemple, c'est
génial. On a un prix fixe, sauf pour ce qui est pas fixe, quoi.
Oui, parce que alors oui, un contrat à prix fixe.
Je comprends la logique.
Quand tout le reste bouge, quand la fiscalité bouge, vous êtes bien obligé, quand vous êtes fournisseur, de répercuter l'énergie. Mais là où c'est quand même assez paradoxal, c'est que ça revient un peu à faire payer aux ménages la facture de la transition énergétique pour laquelle on est censé les aider. C'est...
Non mais si en face on a un service MaPrimeRénov' qui est très clair et très simple et limpide et qu'on peut en plus bénéficier de... Non.
Bien sûr. C'est là où vous croyez vraiment au Père Noël.
On y revient. 8h14, merci Emmanuel Lechypre. C'était l'économie. Très bon réveil à toutes et à tous sur RMC. On va filer au standard. Retrouver Pierre qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Pierre.
Bonjour tout le monde.
Merci. Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes un ancien infirmier libéral, vous, je crois, Pierre.
Tout à fait. Je suis un ancien infirmier libéral et je suis démissionnaire de l'hôpital. Et pour reprendre justement une activité libérale, là, dans début d'année prochaine.
Alors je rappelle pour ceux qui, on est quand même sur une période de vacances, certains ont mis le réveil à 8h, ils n'ont peut-être pas tous suivi, on parlait ce matin des nouvelles responsabilités hein, qui incombent aux infirmiers. Vous allez pouvoir prescrire, parfois vous allez pouvoir vacciner, vous allez pouvoir en fait pallier l'absence de médecins dans certains déserts médicaux. Aujourd'hui les infirmiers, avec nous promettons une revalorisation en vue de l'acte infirmier. Pierre, aujourd'hui vous avez des compétences qui sont insuffisamment exploitées.
Ben, en fait, il y a quelque chose d'évident au niveau mondial, c'est que l'infirmier en France est sous-évalué. Moi, par exemple, j'ai ma sœur qui est infirmière au Canada. Elle a un champ de compétences qui est absolument considérable par rapport à moi. Il faut savoir quelque chose en France, c'est que la durée de vie d'une infirmière, c'est 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, l'infirmière est dégoûtée, sous-reconnue, sous-payée, sous-évaluée. Et en effet, l'infirmière ou l'infirmier s'en va.
Ouais, ouais, donc je vous comprends bien, on manque de médecins aujourd'hui pour plein d'autres raisons. Mais si on veut pas en plus manquer d'infirmiers au bout, il va falloir se saisir à la fois de vos compétences et de vos revenus.
Après, sur cette histoire de rémunération et de compétences, en effet, il y a un peu aujourd'hui un système qui se marche sur la tête. On parle de médecins libéraux qui sont complètement débordés. Aujourd'hui, le cas concret, par exemple, on a un patient qui est diabétique. Qui va voir son médecin traitant. Son médecin traitant lui prescrit une prise de sang. Il va voir son infirmier libéral qui fait la prise de sang. Le médecin revoit le patient 10 jours plus tard. Ça fait 2 rendez-vous pour un médecin pour le même problème. Ce qui aujourd'hui est complètement aberrant. Et si déjà on libérait cet espace-là...
Ben oui, ça dégage des rendez-vous, ça dégage du temps. Et ça dégage des chances aussi hein, pour certains malades, nous disait le porte-parole Thierry Amouroux, porte-parole des infirmiers. Merci Pierre, qui retourne en libéral, hein, si j'ai bien compris. Ancien libéral, passé par l'hôpital, qui retourne en libéral. Merci d'avoir témoigné ce matin en direct. Vous êtes nombreux et nombreuses, les infirmiers infirmières, à réagir ce matin en direct sur RMC. Bien, vous continuez, vous êtes ici chez vous. Il est
8h17. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Martin, on a pas mal de réactions ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et on le disait, pas mal de réactions, notamment d'infirmiers qui réagissent à ces nouvelles prérogatives accordées aux infirmiers, vacciner, prescrire, diagnostiquer. Notamment, Philippe nous écrit par exemple, il craint que ça ne fasse que dégrader la qualité des soins. J'ai suffisamment à faire pour qu'on me demande d'autres actes. Voilà pourquoi je suis en reconversion, nous écrit Philippe. Thierry, de son côté, explique que le médecin n'est pas la médecine n'est pas du débit à la chaîne, pardon. 10 ans d'études, ce n'est pas pour faire joli. Ne glissons pas vers du tému de la médecine, nous écrit Thierry sur WhatsApp 0612 424 424. Des réactions. Et puis des hommages ce matin à Brigitte Bardot au lendemain de son décès à 91 ans hier. On a cette auditrice par exemple qui nous écrit: Brigitte Bardot, grande dame et surtout un grand cœur. Et puis Christian, Brigitte Bardot a été l'icône des années 60 et 70 avec cette image de libération de la femme. Certains féministes actuels devraient lui en être éternellement reconnaissants. Et vous, quelle image vous garderez de Brigitte Bardot? Bah, venez nous le dire, tiens, sur WhatsApp et au 3216 0612 424 424 pour le WhatsApp.
Avec un grand reporter à Paris Match, la longue histoire de Brigitte Bardot avec Paris Match, histoire plus complexe avec les paparazzi, la célébrité, l'image, l'icône Brigitte Bardot. Que retenez-vous, vous, de Brigitte Bardot ce matin? Vous nous le dites au 32-16, n'hésitez pas, on en parlera à 8h30. Mais dans un instant, ce chiffre qu'RMC vous révèle en exclusivité, plus de 200 000 victimes d'usurpation d'identité chaque année en France, mais seules 4 208 condamnations prononcées en 2024, selon le ministère de la Justice. Bonjour Agathe Foucault.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la police nationale. Pourquoi c'est si difficile d'attraper ce genre d'escroc? Et puis surtout, comment éviter de se faire usurper son identité? C'est le sens de votre message ce matin. Vos réponses dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h20 sur RMC, RMC Story. On va parler du fléau de l'usurpation d'identité en France avec cette information que révèle RMC. Seules 4208 condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024, alors qu'il y a plus de 200 000 personnes qui en sont victimes en France. Faible ratio, me direz-vous, peu parviennent à obtenir justice. Mais d'abord, une autre question, Agathe Foucault, rebonjour. Une autre question pour la représentante de la police que vous êtes. À partir d'aujourd'hui, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit et non plus une contravention. Qu'est-ce que ça change ?
Ce que ça change, c'est d'abord sur la peine qui peut être prononcée par le magistrat à l'issue de la procédure, avec une peine d'emprisonnement et une peine d'amende de 3 750 euros d'amende. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est vraiment d'apporter cette réponse ferme pour protéger les usagers de la route. Il y a presque 3 500 morts par an sur les routes. La principale cause de la mortalité, c'est la vitesse, c'est les grands excès de vitesse. Un tiers des morts sur la route sont dus à cette vitesse qui est excessive ou inadaptée. Donc il y a vraiment la nécessité une prise de conscience collective.
Un tiers des morts
sont dus à une vitesse excessive ou inappropriée.
Bon, on parle en plus là sur ces grands excès de vitesse, on parle de quelqu'un qui roule à 100 en ville, à 180, 190 sur l'autoroute.
Au-delà de 50 km/h, effectivement, on considère que c'est un grand excès de vitesse. Et puis, au-delà de la peine de prison, au-delà de l'amende, il y a aujourd'hui la possibilité pour le magistrat de prononcer une peine d'annulation du permis de conduire, avec l'impossibilité pour la personne qui a conduit trop vite de le repasser pendant 3 ans. Donc, l'objectif est vraiment d'apporter une sanction pénale ferme pour dissuader et pour éduquer les comportements.
Avec inscription au casier judiciaire, je le précise. On en vient à notre dossier à la une ce matin, dossier sur l'usurpation d'identité. Julie Brault de la rédaction d'RMC a rencontré une victime, un retraité normand. Écoutez Julie, il s'est fait voler ses données personnelles il y a plus d'1 an.
Oui, un cauchemar, c'est ce que vit Christian depuis novembre 2024, date à laquelle ce retraité de 72 ans a été enregistré à son insu comme le gérant d'une société automobile. Les malfaiteurs ont acheté plus de 3000 voitures, toutes immatriculées à son nom. Et depuis, il reçoit des PV presque tous les jours pour des infractions qu'il n'a pas commises.
Ce matin, c'est une petite journée, j'ai eu que 14 PV. Mais en général, c'est entre 30 et 40. Beaucoup de stationnements dans Paris, par exemple, des excès de vitesse dans les quatre coins de la France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, de partout. Et voilà, où j'en suis aujourd'hui. C'est un scénario pas possible. On pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je vois à nuit. Personne aujourd'hui n'a de solution.
Agathe Foucault, je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale et que vous allez aider nos auditeurs à se prémunir. Mais sur le ratio des résolutions d'enquête, c'est quand même pas beaucoup. 200 000 victimes, 4 000 condamnations. Pourquoi ?
Alors deux choses. La première, c'est que ce sont des enquêtes qui peuvent prendre du temps. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité, au-delà d'usurpation d'identité classique où on vous vole votre pièce d'identité ou vous la perdez ou vous transmettez une photocopie, il y a l'usurpation d'identité numérique avec l'utilisation de vos comptes sur les réseaux sociaux, de votre adresse mail, et donc tout cela nécessite des investigations particulières qui peuvent prendre du temps. Et puis ensuite, effectivement, vous l'avez dit, c'est 200 000 victimes par an, mais ces 200 000 victimes ne déposent pas plainte. Et donc il y a vraiment la nécessité aujourd'hui, lorsqu'on est victime d'une usurpation d'identité,
c'est important de porter plainte.
De déposer des plaintes pour qu'on le quantifie, pour que les policiers enquêtent et puis qu'on puisse aussi faire des liens, par exemple, entre un mode opératoire bien spécifique qu'on va avoir identifié à Lille et qu'on identifiera aussi à Paris et puis à Marseille. Et ça va permettre de recouper les éléments, de regrouper les éléments de preuve pour pouvoir qualifier l'infraction.
C'est la voie royale hein, pour l'escroquerie, finalement, que l'usurpation d'identité. On vole des données personnelles, comme on l'a entendu, et aujourd'hui, on peut facilement se faire passer pour un autre.
Effectivement, le vol de données personnelles, c'est le vol de votre nom, de votre date de naissance, de votre justificatif de domicile, et ça va permettre aux escrocs derrière de contracter des locations de vacances, des locations de voitures, des cartes grises, et puis également... Ça va permettre de tout type d'infractions qui vont vraiment porter préjudice à la victime jusqu'à aller à l'interdit bancaire, donc ce qui au quotidien pose vraiment des difficultés.
Alors ensuite, sur la suite entre les personnes qui se déclarent victimes et les condamnations, on avait ce message que vous avez lu, Martin.
Exactement, Pierre, qui nous écrit depuis les Yvelines, qui s'est fait usurper son identité. On a créé un compte bancaire à sa place, il s'est battu, il a déposé plainte, il a appelé et relancé le commissariat et on a fini par lui dire... On n'a pas que ça à faire, en fait, de s'occuper de ça. Ça a mis du temps. On lui a volé plus de 16 000 euros. Il a réussi à s'en sortir au final, mais parce qu'il s'est débrouillé tout seul et il s'est senti, visiblement, d'après ce qu'il nous écrit sur WhatsApp, assez démuni. En tout cas, il n'a pas eu de réponse de la part des autorités et de la part notamment de la police qu'il a sollicité.
Agathe Foucault.
Nous avons cela à faire. Hein. Ça fait quand il y a une procédure pour usurpation d'identité, nous travaillons pour identifier les auteurs. Et puis le dépôt de plainte, il est important pour la victime aussi, pour se faire reconnaître en tant que victime. Ce qui est essentiel aussi, si on est victime d'une usurpation d'identité, c'est d'aviser son établissement bancaire et puis aussi de solliciter la Banque de France pour savoir s'il y a eu des incidents concernant notre identité et identifier les conséquences.
Je précise que ça concerne les particuliers, mais pas seulement, hein, les professionnels, les comptes d'entreprise aussi. Et ces escrocs, ils ne sont pas forcément en France.
Ils ne sont pas forcément en France.
Une grosse difficulté.
Alors après, le travail et l'identification d'auteurs qui se trouvent à l'étranger fait partie du quotidien des policiers. Donc nous travaillons également dans le cadre de la coopération internationale.
Alors on fait attention à Gad Foucault, à ce qu'on donne en ligne, etc. Mais aujourd'hui, nos données personnelles, que ce soit des données bancaires, des données d'identité, je ne sais pas moi, un justificatif de domicile, on passe notre vie à les envoyer en ligne.
Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a autant. 200 000, c'est beaucoup. C'est 200 000 victimes derrière qui vont connaître au quotidien des difficultés. Donc, d'où l'importance d'être vigilant, de faire des contre-appels quand on sollicite vos données personnelles par téléphone ou par mail. Et puis aussi d'avoir à l'esprit que des organismes publics ou des organismes privés sérieux ne vont pas solliciter vos données personnelles juste par téléphone. Ils vont utiliser une plateforme sécurisée. Et donc, il est essentiel d'être vigilant.
Merci beaucoup, Agathe Foucault. Porte-parole de la police nationale, d'être venu éclairer nos auditeurs, expliquer aussi ce gap entre les 4000 condamnations et 200 000 personnes qui se disent victimes d'usurpation d'identité. Vous apportez un témoignage, vous n'hésitez pas, au 32-16 ce matin. Merci Agathe.
Merci.
8h27. Arnaud Demange a pris quelques jours de vacances. Il a bien le droit, mais il est quand même présent avec nous ce matin. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Ouais. Allez, l'actu. Emmanuel Macron a annoncé hier son nouveau service militaire. Et alors, il a assuré que ça n'était pas pour envoyer nos jeunes en Ukraine. Il a dit, je vais pas envoyer nos enfants en Ukraine. On en a quasiment plus. Les Français font plus de gosses. Je vais pas envoyer le peu qui nous reste se faire exploser sur une mine dans le Donbass. On fera comment pour les retraites? C'est pas des culs de jatte qui vont faire tourner l'économie. Et c'est vrai que les Françaises font moins d'enfants. Mais alors, Mathieu Béliard m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit... je peux pas être partout, hein.
C'est une très bonne explication.
Donc, c'est un service militaire sur la base du volontariat, 900 euros par mois, nourri, logé, blanchi. C'est pas mal, je trouve. 900 balles par mois pour me défiler dans le marché de Noël avec une mitraillette en bandoulière, c'est limite peinard. Vu la pauvreté chez les étudiants, 900 balles, c'est de l'argent de poche, tu prends, c'est pas mal. À ce prix-là, il y a même des retraités qui vont se porter volontaires. Votre nom?
Roger.
Votre âge?
84 ans et demi.
Pourquoi vous engagez?
Pour pouvoir mettre le...
Et puis, non mais c'est bien, ça évitera de sacrifier notre avenir. Au lieu de risquer de la santé de nos jeunes, parce qu'on n'en a pas beaucoup, risquons la santé de nos vieux, on en a trop.
Mais alors, bien sûr, il faut rester de voir mourir nos vieux, c'est ça plutôt en fait.
Non mais entre l'EHPAD et l'armée, je pense que t'es mieux dans une tranchée à Mariupol que sur PA en plus. Donc c'est vraiment tout bénef.
Arnaud Demange, que vous retrouvez à tout moment en podcast sur RMC, rmc.fr, et puis en direct à partir de la semaine prochaine, bien entendu. Dans un instant, la météo et le journal de 8h30 avec bébé Brigitte Bardot, idole de la presse People, plus de 41 de Paris Match, une gloire mondiale et une vie privée pulvérisée. Comment Brigitte Bardot est devenue le mythe qu'on salue aujourd'hui. Notre invité à 8h40, c'est Christophe Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. À tout de suite. 8h30, Géraldine Demory, la France a froid.
Ah oui, pratiquement toute la France ce matin avec des gelées quasiment partout. On est quand même descendu à moins 11 degrés à Mourmelon. C'est vrai que dans le nord-est, c'est vraiment là qu'il a fait le plus froid. Cet après-midi, on ne dépassera pas les 0 degrés à Bourges, à Dijon, 1 degré pour Lyon, il fera 4 à Nantes, à Clermont-Ferrand, 4 à Paris, à Lille, 6 à Brest, 13 à Toulouse, 14 à Marseille, 16 à Nice et Ajaccio. Avec pas mal de soleil, une fois que les brouillards matinaux seront dissipés, c'est vrai que la grisaille restera tenace vers le Val-de-Saône, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vers la Gironde. Puis attention au risque d'avalanche qui reste très marqué sur la Haute-Maurienne notamment.
Il est 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à toutes et à tous. Thibaut Texer est avec nous pour un nouveau journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Saint-Tropez se réveille sans sa star Brigitte Bardot, icône du cinéma, disparue à 91 ans. Une vie marquée et engagée pour la défense des animaux. Nous serons à Saint-Tropez dans ce journal. Une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier. C'est ce que l'annonce d'Emmanuel Macron après la rencontre cette nuit aux États-Unis entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De nombreux progrès ont été faits sur le président américain. Et le Maroc, qui veut rejoindre l'Algérie, est qualifié pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Et Brigitte Bardot est à la une de vos journaux ce matin.
Son visage en première page de la presse nationale, régionale, mais aussi internationale. Icône du cinéma, de la mode, symbole de la libération de la femme, Brigitte Bardot a bousculé les codes de sa génération affranchie, engagée. Elle s'est éteinte hier matin chez elle à 91 ans dans sa résidence de la Madrague. C'est du côté de Saint-Tropez. C'est là qu'elle avait choisi de s'installer à la fin des années 50. Sur place et en direct ce matin, notre envoyé spécial dans le Var, Pierre Bourget. Vous avez rencontré, Pierre, les admirateurs de Brigitte Bardot, venus rendre hommage à cette icône du cinéma français.
Oui, et ce matin, je me trouve devant la statue de Brigitte Bardot, statue couleur or où l'actrice est assise dans un coquillage. On est là en plein centre de Saint-Tropez et depuis environ 7 heures ce matin, quelques personnes viennent se recueillir devant la star. Certains y ont déposé une bougie, d'autres y prennent une photo. C'est le cas de Laurence, cette habitante de Saint-Tropez, encore du mal à réaliser.
On s'y attendait plus ou moins, mais c'est vrai qu'on pense toujours que ces icônes sont immortelles. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que Bardot, c'est l'histoire de Saint-Tropez. Bardot a construit un petit peu l'image de Saint-Tropez et c'est une petite partie de son histoire qui s'en va.
Et la ville de Saint-Tropez devrait organiser un hommage à Brigitte Bardot très prochainement. Les habitants tiennent à saluer une femme connue à l'international pour ses films et ses musiques, mais aussi pour son engagement pour la protection des animaux. En témoigne cette lettre déposée au pied de la statue, signée par deux propriétaires d'un chat. Bébé, nous te serons toujours reconnaissants envers ton combat.
Et la lutte pour la protection des animaux, c'était donc le combat de Brigitte Bardot qui avait mis fin à sa carrière dans les années 70 pour se consacrer à sa fondation, un demi-siècle de combat et un héritage qui restera. Philippine Boulet a pu s'en rendre compte dans un centre de la SPA de région parisienne.
Abigail est venue à la SPA de Gennevilliers pour adopter un chien.
Et le papa a enfin dit oui.
Pour sa famille, la disparition de Brigitte Bardot a fait l'effet d'un déclic.
On regardait les images de Brigitte Bardot et oui, c'est parti de là du coup de regarder sur la SPA.
Une autre visiteuse, Josette, pense recueillir un chat. Elle l'affirme, sans l'engagement de Brigitte Bardot, la cause animale aurait pu tomber dans l'oubli.
Enfin, pour moi, c'est grâce à elle. Peut-être que la SPA, elle serait peut-être même pas en vie, enfin on sait pas.
Stéphane Lamarre a lui fondé une association de protection animale. Il s'est inspiré de l'engagement de Brigitte Bardot.
C'est une personne qui m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai découvert à la télévision lorsque j'avais 10 ans, en 1992. Et depuis ce temps-là, je marche sur ses pas. Son combat était sincère, réel, efficace. C'est ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a touché. Et je me suis dit, il faut que je m'engage moi aussi.
40 ans après sa création, la Fondation Brigitte Bardot compte aujourd'hui 4 refuges et mène des actions dans plus de 70 pays.
Brigitte Bardot, femme engagée politiquement, aussi proche de l'extrême droite, le RN lui a rendu hommage hier, saluant une ardente patriote, pas ou peu de réactions en revanche à gauche.
Oui, peu, Émeric Caron seulement, on sait aussi son attachement à la cause animale. Tiens, on parlera de ce côté un peu politique avec Jack Lang, on parlera de son engagement pour la cause animale, et puis on parlera de l'icône Brigitte Bardot avec Christophe Carrère, grand reporter au service culture de Paris Match. C'est dans quelques toutes petites secondes hein, sur RMC, quelques petites minutes. En attendant, l'espoir d'une paix entre Kiev et Moscou. Donald Trump veut y croire.
Le président américain a rencontré hier soir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu dans sa résidence de Mar-a-Lago sur place notre envoyé spécial Naoufel El Khawafi. Les deux présidents ont salué à l'issue de ce rendez-vous des avancées. Pour autant, Naoufel, on est encore loin d'un véritable accord.
Donald Trump et Volodymyr Zelensky parlent d'une réunion fructueuse avec de nombreux progrès. Un plan en 20 points, approuvé à 90% par les États-Unis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret. Et surtout, il reste encore des points de blocage, notamment concernant la question territoriale et celle du contrôle du Donbass. Le président américain expliquait que c'était encore complexe et que le problème n'avait pas été résolu. À l'issue de cette rencontre, une visioconférence d'une heure avec plusieurs dirigeants européens a été organisée en présence d'Emmanuel Macron. Des dirigeants européens qui sont attendus à Washington début janvier avec Volodymyr Zelensky pour poursuivre ces négociations dans l'espoir d'un accord de paix.
Et dans la foulée de ce rendez-vous, Emmanuel Macron annonce cette nuit une rencontre des alliés de Kiev à Paris. Ce sera début janvier. À retenir également ce matin l'activation du plan Grand Froid en région parisienne. Le dispositif qui touche désormais une trentaine de départements vise à protéger les sans-abri via l'ouverture notamment élargie des solutions d'accueil le jour en tout cas. 4208, c'est le nombre de condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024 selon le ministère de la Justice. Information que vous révèle RMC ce matin, chiffre qui contraste avec le nombre de cas recensés chaque année en France au nombre de 200 000. Retour ce matin sur ce rassemblement de supporters du PSG venu célébrer place du Trocadéro samedi soir à Paris. Les 6 titres du club de la capitale à base d'engins pyrotechniques, célébrations illégales, 40 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue et 12 d'entre elles, Pierre Bazin, pourraient bien être poursuivies.
Oui, ce sont 11 hommes et une femme qui doivent comparaître ce jour, tous soupçonnés d'avoir détenu illégalement des articles pyrotechniques réservés aux professionnels et d'avoir participé donc à ce feu d'artifice clandestin revendiqué par des supporters du PSG pour fêter la bonne saison de leur club. Une action coordonnée qui a fortement agacé les forces de l'ordre. Loïc Dessertaine est délégué du syndicat Alliance à Paris.
On a des clubs de supporters qui se présentent dans des lieux très fréquentés de la région parisienne, en cagoulé, tout de noir vêtu, craquer des fumigènes et tirer des feux d'artifice au milieu du monde qui peut être présent, ça pose un grave problème de sécurité aujourd'hui. Que les supporters du PSG se réjouissent de la qualité de leur équipe et de la saison qu'ils ont faite, très bien. Le faire en pleine ville et mettre en danger la population, c'est hors de question.
En un mois et demi, c'est le troisième feu d'artifice clandestin d'envergure revendiqué par des amateurs de football qui est organisé dans la capitale.
On roulait beaucoup trop vite, peut vous coûter cher à compter de ce matin. 3 750 € d'amende, mais aussi et surtout 3 mois d'emprisonnement. C'est désormais la peine encourue pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la maximale autorisée. Excès de vitesse qui deviennent un délit. À partir d'aujourd'hui, plus de 63 000 cas ont été dénombrés en 2024.
Une place en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans le viseur du Maroc.
Et la pression sur les épaules du pays hôte de la compétition opposée à la Zambie. 20h ce soir sur RMC. Le Maroc déterminé à ne pas céder à la panique et répondre à leurs supporters très critiques après le match nul face au Mali. C'est le cas du capitaine Achraf Hakimi.
On a besoin des deuxièmes hommes, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Et j'ai pas aimé beaucoup qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps des premiers matchs, des deuxièmes matchs. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de le soutien de tous les supporters. On sait que c'est pas facile, tous en temps, qu'ils voulaient qu'on gagne, qu'on marque, qu'on finisse le match à la première mi-temps. On devait respecter les adversaires. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. Comme je dis, cette CAN, c'est pas facile.
Et le Maroc qui va donc tenter de rejoindre l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie qui a décroché son billet hier soir pour ses huitièmes de finale de la CAN.
Les fêtes, vous ne manquez rien de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'écoute d'RMC, bien entendu. Merci beaucoup, Thibaut Texer. C'était le journal de 8h30. Vous restez bien sur RMC. On va revenir évidemment sur les hommages qui se multiplient ce matin. Encore hommage à Brigitte Bardot dans un instant. Il est 8h39.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h43 sur RMC et RMC Story. On continue de rendre hommage à Brigitte Bardot ce matin. Et vous allez nous dire au 32-16, et je sais qu'on va en reparler avec les grandes gueules à partir de 9h sur RMC, RMC Story. Qu'est-ce que vous retenez de Brigitte Bardot? Ses films, ses chansons, sa personnalité, son franc-parler, son engagement pour la cause animale, bien entendu. Nous sommes avec Christophe Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC ce matin. Merci d'être avec nous d'abord, parce qu'en plus, vous avez quasiment un record de une de Paris Match.
Quasiment un record. Là, celle qui sort aujourd'hui, le numéro qui sort aujourd'hui en hommage à Brigitte Bardot, c'est la 46e couve. La 45e, c'était le numéro 4000.
Ça, c'est fou, numéro 4000.
Ouais, numéro 4000.
C'est une icône de match. Brigitte Bardot, mais c'était il y a une semaine.
Mais c'est plus, alors, c'est une icône de match, c'est une icône de la France. Donc, en fait, Paris Match, en fait, raconte le monde en général et la France en particulier. Et Brigitte Bardot, c'était la France. Donc forcément, évidemment qu'elle a un record de couve. Et qu'il y avait d'ailleurs on travaillait en très bonne intelligence avec Brigitte Bardot. C'est-à-dire que
elle connaît. Vous faisiez confiance.
Elle faisait entièrement confiance à Paris Match.
Il y avait quand même une très très grande méfiance de la presse en général, des paparazzi en particulier, des photographes.
Oui. Oui, mais d'abord, une de ses premières couves, si ce n'est sa première couve, c'était Paris Match. Elle avait, je sais pas, elle était toute jeune. Hein, je vous parle de ça. C'était avant Et Dieu créa la femme. Et en plus, un de ses plus proches amis, un de ses piliers, c'était Christian Brincourt, qui était photographe à Match, pour Match. Et qui est mort cet été, d'ailleurs, Christian Brincourt, dont le fils a repris... pendant un bon moment le service photo de Paris Match. Bref, il y avait une liaison, c'était intrinsèque. Ouais, c'était la famille, vraiment.
C'était la famille, ouais. Brigitte Bardot qui se sentait en prison, traquée par les paparazzi. Une exception donc pour Paris Match.
Pas pour pas par Paris Match.
En
non.
L'occurrence, une icône française. Vous me disiez, il y a que Johnny qui a eu plus d'une.
Alors Johnny a eu 60 couves.
Ouais.
Mais contre Brigitte Bardot 46. Mais le truc c'est que Brigitte Bardot elle a arrêté sa carrière à 39 ans. Alors que Johnny il a jamais arrêté.
Ah bien sûr.
Et malgré bien que elle ait arrêté à 39 ans donc en 1973, vous vous rendez compte? elle a quand même fait 46 couvertures parce que après on était là pour les bébés phoques, on était là, hein, la couverture est célébrissime, hein, de Brigitte Bardot avec son bébé phoque dans les bras, et puis on en a fait d'autres, on a toujours été là pour la soutenir dans son combat pour la cause animale.
Qui représente sa plus grande œuvre en réalité, hein, si on suit bien. Elle arrête le cinéma, la chanson.
Bien sûr.
Et le star system, si j'ose dire, à 39 ans, pour mettre sa célébrité au service des animaux.
Ah, vraiment pour ça,
jusqu'à 91 ans. Jack Lang est en ligne avec nous, ancien ministre de la Culture, entre autres. Bonjour, Jack Lang.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes ce matin. Vous avez dit hier, vous feriez ce matin le tour du monde. C'est une icône dans beaucoup de pays. Ça n'est pas qu'en France qu'on se rappelle et qu'on rend hommage à Brigitte Bardot aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est une vérité première. C'est une des rares stars, personnages emblématiques qui soit connu dans le monde entier, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Afrique ou le nord de l'Europe. Elle incarne encore une sorte d'idée de la France, de la femme française, de l'actrice française. Elle a réussi aussi par non seulement son art d'actrice ou de chanteuse, mais aussi ses combats, en particulier son combat qui au départ était moqué en faveur des animaux, à faire de la cause animale une cause mondiale.
Jack Lang, quand Brigitte Bardot se lance dans ce combat pour la cause animale et qu'elle interpelle sans gêne, faut le dire, les politiques, les élus, les chefs d'État, elle a rencontré tous les présidents de la 5e, ouais. À l'époque on se moque d'elle, Jack Lang.
Absolument, absolument. C'est une chose que je trouve très intéressante dans la relation entre Brigitte Bardot et puis, disons, les médias ou la population, c'est que toujours ses débuts ont été mal reçus ou moqués. Par exemple, ses débuts d'actrice par susciter le doute, et jusqu'au moment où elle fut pleinement reconnue, consacrée et surtout, disons, par Valdim et par Godard. Et même chose pour les animaux, c'était une sorte de moquerie de la part de tous les responsables et d'une bonne partie de la presse, disons-le. Peut-être Paris Match, bravo, y a échappé, mais généralement c'était la moquerie. Et elle a pourtant été finalement, il faut le reconnaître, une pionnière, une visionnaire, et c'est elle qui a contribué à cette sauvegarde du vivant et des animaux. Il faut lui être reconnaissant de cela.
Alors Jack Lang, vous avez parlé hier d'une femme sauvage, indomptable, difficile à mettre dans une case pour la gauche, en tout cas un petit peu gênée ce matin dans ses hommages, à part Aymeric Caron, dont on sait aussi l'attachement à la cause animale.
On n'a pas à être gênée, disons que elle n'était pas, elle appartenait à une autre philosophie, si j'ose dire. Elle a eu des propos inacceptables.
Elle a été condamnée, on l'a dit, hein, ce matin, 5 fois pour incitation à la haine raciale.
Faut le dire, alors, c'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'on doit aussitôt le momifier. D'ailleurs, plusieurs personnes.
Non, et puis alors, Jack Lang, je vais me tourner aussi vers Christophe Carrière. C'est la première, si ce n'est une des seules, en tout cas de ce rang-là, vedette, à s'afficher sans gêne avec le Front National à l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui.
C'était son mari surtout.
Dernier mari.
Mal, il était, c'était avec qui elle est restée quand même 33 ans. Donc c'était un cadre du Front National, hein, pas du RN. Hein, donc ça c'est.
Fait partie du personnage.
Alors ça fait partie du personnage. Quel effet ces écarts de langage et qui ont été condamnés, hein, faut le dire et le rappeler. Cela dit, si vous regardez le documentaire Bardot réalisé par Elora Thévenet, vous verrez que dedans elle présente ses excuses.
Oui, elle est
vraiment, mais
des regrets sur la
voilà.
Forme,
comme quoi elle a rien contre les musulmans ou quoi. C'est juste, c'était au moment de l'Aïd, de la même manière qu'au moment en 62, elle disait que les Français étaient des barbares dans l'abattage, de la même manière que les Canadiens étaient des barbares pour tuer les bébés phoques.
Merci Jack Lang, ancien ministre de la Culture, d'avoir pris quelques minutes pour rendre hommage à Brigitte Bardot ce matin. Évidemment, alors on a parlé de cette proximité avec Paris Match. Il y a aussi la ville de Saint-Tropez. Moi, je voulais absolument qu'on en parle quand même. Parce qu'on parle souvent du petit... Alors, elle n'a pas fait Saint-Tropez, mais Saint-Tropez n'a pas fait Bardot, mais les deux ont...
ont explosé ensemble. Il y a une petite ville aussi, j'ai vu hier, j'ignorais, c'est incroyable. Vous savez, c'est un fait international quand même, la mort de Bardot. Hein.
Bien sûr.
Et j'ai vu qu'au Brésil, j'ai vu ça hier soir, il y a une petite ville au Brésil, une petite ville balnéaire qui est devenue aussi célèbre que Saint-Tropez apparemment, et il y a la statue aussi de Bardot face à la mer.
Comme à Saint-Tropez.
Oui, exactement pareil, c'est incroyable quoi.
je ne le savais pas. Alors, Christophe Carrière, ce que vous avez pu aussi explorer avec Brigitte Bardot au fil des années chez Paris Match, je parle pas uniquement de
oui,
vous,
oui.
Bien entendu, il y a vos prédécesseurs chez Match, c'est une forme de quoi de féminisme première génération. C'est la libération sexuelle, Brigitte Bardot.
Attendez, vous rigolez, vous, c'est même plus que ça. Moi, je dis que c'est du féminisme ontologique. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle ne revendique absolument pas d'être féministe, puisque il y a
c'est même très.
Il y a un bébé CDR. Ce qu'ils appellent, c'est sorti chez Fayard, là, il n'y a pas longtemps, un bébé CDR, vous savez, avec, voilà.
Une forme de dictionnaire amoureux de Brigitte Bardot.
Voilà, c'est ça, voilà, c'est un peu ça, mais c'est elle qui l'a écrit. Mmh. Et c'est à la main. C'est écrit à la main comme elle n'utilisait pas d'ordinateur. Donc, tout est écrit à la main. F comme féminisme, ça pique, hein, elle a juste marqué réunion de femmes imbaisables. Vous dites, ah ouais, quand même, c'est, de sa part, c'est quand même, elle avait la formule qui fait mal. Alors que c'était évidemment, c'est une des pionnières sur le féminisme. C'est quand même quand elle est enceinte de Jade Charrier, qu'elle a Nicolas dans le ventre. Pardon, mais ce qu'elle dit, c'est assez à l'époque, c'est assez révolutionnaire. Elle ne veut pas de cet enfant. Elle reconnaît avoir fait deux IVG déjà. Elle veut se réapproprier son corps. Et elle n'a pas l'instinct maternel et elle le revendique. C'est pas une tare,
c'est pas rien. Elle est à la France des années 60.
Voilà, c'est ça. C'est là incroyable.
Brigitte Bardot, parce que c'est vrai que moi je retenais la libération sexuelle, les corps dénudés.
Évidemment, mais il y a
ça aussi. Il y a l'IVG aussi.
Il y a la réappropriation du corps par la femme et à l'époque, franchement, je vous assure que c'est pas évident.
On a une icône qui a refusé la chirurgie esthétique.
Alors ça, ouais, ça c'est génial.
C'est
un exemple,
aussi.
Mais elle est exemplaire là-dessus. Je sais plus qu'elle avait une bonne formule là-dessus en revanche, plus meilleure que pour le féminisme. où elle disait que je sais plus, mais ouais, que en fait les femmes se faisaient de la chirurgie esthétique parce qu'elles trouvaient que les rides ridicules, mais en fait, quand elle faisait de la chirurgie esthétique, c'est elle qui était ridicule, quoi. Voilà, avec ce visage déformé. Alors qu'elle, elle assumait pleinement ses rides. Mmh. Et encore une fois, c'est pour ça aussi, c'est pas du tout pour ça, pour des raisons esthétiques, qu'elle a arrêté le cinéma.
Elle sera en une de match cette semaine.
Ah ouais, bah ça y est, elle y
deuxième
est.
Deuxième semaine consécutive, si j'ose dire.
46e une. Vous savez quoi, à mon avis, c'est pas la dernière.
Hein. C'est vrai?
Oh, bon, à mon avis, on en refera. Brigitte Bardot, je vous dis, c'est l'histoire de la France, mais vraiment quoi.
Alors est-ce que vous savez quand on dit c'était mieux avant, est-ce que c'est ça le avant? Est-ce que c'est la France d'avant? Je sais que c'est un débat des grandes gueules. C'est pour ça que je tease le débat.
Je déteste cette expression, vraiment.
C'était mieux avant.
Et pourtant j'ai plus de 60 ans, je déteste l'expression c'était mieux avant, parce que dans 30 ans vous verrez que on dira ah c'était mieux en 2025.
Alors la France vraiment. De Bardot, ce sera au menu des grandes gueules. C'est pour ça que je disais avec Alain Marchal et les grandes gueules ce matin. Merci beaucoup Christophe Carrière. On va lire.
Plaisir.
Enfin, même sans le lire, j'aimerais pas le dire comme ça. Vous êtes quand même des confrères.
Arrêtez,
mais même sans le lire, on va l'acheter parce que c'est collector.
Évidemment, bah oui, voilà, c'est collector.
C'est la une de match.
Vous en avez deux en kiosque là avec Bardot.
Christophe Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. Merci beaucoup et bon courage parce que vous allez être sollicité dans les heures et les jours qui viennent. Il est 8h54. Les grandes gueules à suivre. On revient demain matin en direct dès 7h pour Apolline Matin pour le Morning dès 5h avec vous, Martin Bourdin et Pascal de la Tour du Pin. Très bonne journée à tous, 8h54.
RMC, Apolline Matin.